Bienvenue dans Osons l'intime, une chronique portée par Claire et Céline du collectif Féminin Naissance Royans Vercors, dans laquelle on ouvre de nouveaux horizons autour de sujets souvent tabous, relégués au couple, à la famille ou à nos réflexions individuelles. Des partages d'une dizaine de minutes de nos vécus de femmes cisgenres et d'accompagnantes.
Bienvenue, bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle chronique Osons l'intime en compagnie de Claire et Stéphanie du collectif Féminin Naissance Royans Vercors. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et on poursuit cette semaine sur un thème qui a été déjà abordé lors de la précédente chronique, mais il y a en quelque sorte donc deux épisodes, et on parle de ménopause. Et on peut peut-être commencer donc cette chronique, Stéphanie, par résumer en quelque sorte le précédent épisode sur la ménopause.
Ouais, tout à fait. Donc, un épisode à nouveau sur la ménopause pour vraiment donner la part belle à cette grande étape de vie de la femme, pour peut-être aussi changer de représentation sur cette étape, mieux la comprendre pour mieux la préparer ou mieux la vivre. On a vu aussi qu'on était accompagné par des ressources pour aborder ces connaissances-là. La ressource de la direction du Nord, qui est une direction qui correspond à l'âge mûr, en fait, dans la roue médecine, qui nous rappelle aussi qu'on fait partie de ces grands cycles de la vie et que les femmes, tout comme la nature, ont leur cycle de naissance, expansion et de mort et de renaissance. Et puis aussi cette ressource du serpent qui nous aide à voir la ménopause comme une véritable mue, mais aussi que c'est l'élan vital de la femme qui l'amène finalement à vivre toutes ces transformations pour être à nouveau encore plus vivante ou vivante d'une autre manière. Et donc de nous montrer la ménopause non comme quelque chose qui se termine, mais au contraire comme un élan vital qui se transforme. Voilà.
Et moi justement, à l'écoute de cet épisode, m'est venue une question de me dire, est-ce que les femmes qui vivent beaucoup de chamboulements, beaucoup de nouveautés inconfortables à la ménopause, l'ont déjà vécu en fait dans leur cycle? Parce que moi j'ai la croyance que des femmes qui vivent avec du stress, des femmes qui aussi se dépatouillent avec leur trauma, forcément que ça a un impact sur le cycle, que ce soit les syndromes prémenstruels, que ce soit voilà les saignements, etc., etc. Donc voilà, je me demandais, est-ce qu'il y a une continuité à ce niveau-là?
Oui et non. Définitivement, je trouve que c'est une question très intéressante justement sur cette question de la prévention. Alors oui, donc on a dit ça la semaine dernière. En fait, le cycle du cortisol va être vraiment impacté par le trauma et par le stress. Et donc, il va y avoir souvent chez les femmes avec de l'anxiété, du stress chronique ou des traumas, une hyperœstrogénie déjà. Parce que en fait, le cortisol et la progestérone ont les mêmes précurseurs. Donc on va avoir une baisse de progestérone par rapport au taux d'œstrogène et donc une hyperœstrogénie relative. Et donc effectivement, ces femmes-là vont souvent, la plupart du temps, mais c'est pas à coup sûr, vivre des syndromes prémenstruels. Donc oui, on peut se dire que une bonne manière de prévenir, de finalement se préparer à une ménopause douce, c'est aussi de prendre soin de son syndrome prémenstruel. En même temps, moi j'ai accompagné pas mal de femmes dans ce passage de la ménopause qui ont 50 ans et plus aujourd'hui, et je vois que à l'époque où elles avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans, elles avaient peut-être moins ces réflexions que les femmes plus jeunes d'aujourd'hui, et elles pouvaient être en mode un peu go, parce que la société aussi trouvait normal qu'elles vivent des désagréments et qu'on se posait peut-être moins de questions. Et donc elles peuvent arriver finalement en période de préménopause et ménopause très fatiguées, avec une hyperœstrogénie déjà installée. Là-dessus arrive la ménopause qui va accentuer cette hyperœstrogénie, et donc là le corps dit j'en peux plus. Et finalement ça peut vraiment leur tomber dessus, se manifester sous forme d'un burn-out, peut-être même de maladies plus graves, de maladies graves, hein. Je ne veux pas dire que le burn-out n'est pas grave, hein. C'est grave aussi, tout à fait. Mais ces femmes peuvent être un petit peu étonnées et finalement être coupées dans leur élan et n'avoir pas du tout vu venir ça. Mmh. Voilà, ouais.
Merci.
Alors, on va rentrer un peu dans le détail de la deuxième phase. Donc, après cette phase d'hyperœstrogénie, on va avoir une phase plus chaotique. Donc, finalement, nos ovocytes, ils continuent à vieillir. Ils sont de plus en plus résistants à cette FSH, l'hormone qui les mature. Donc, les taux d'œstrogène peuvent continuer à monter dans le corps. et en même temps, on va commencer à avoir des cycles anovulatoire. Ben, malgré ces taux de FSH qui sont hauts, et ben, l'ovocyte va pas maturer, il va pas y avoir d'ovulation à ce cycle-là, et donc on va sauter finalement un cycle. Et donc, nous, ce qu'on va voir finalement dans notre quotidien, c'est qu'on a l'impression que nos cycles se rallongent, que nos cycles, ben, font plus que nos 28 jours, on peut être faire 5, 6, 7, 8 semaines, tout simplement parce que, et ben, on a raté finalement une étape. Il y a des ovocytes qui sont pas arrivés à maturation. Donc, dans ces cycles sans ovulation, on va de plus en plus voir arriver ces fameux symptômes de la ménopause. Les bouffées de chaleur, l'irritabilité, la sécheresse sur la peau, les cheveux, les muqueuses, donc notamment la sécheresse vaginale, qui va peut aussi avoir un impact aussi dans la sexualité. Il peut y avoir aussi des troubles du sommeil qui sont accompagnés. Alors, pourquoi on vit ces fameux symptômes? Qu'est-ce que c'est que ces fameux symptômes de la périménopause et de la ménopause? En fait, il faut voir que c'est vraiment tout un chamboulement du fonctionnement du corps, aussi énergétique. Donc là, je vais vous parler à partir des connaissances qui sont plus des connaissances qui viennent de l'Ayurveda et de la médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, on voit que l'utérus n'est pas seulement un organe qui a pour fonction de faire grandir un bébé, mais c'est aussi un organe émonctoire qui va venir soutenir les autres organes émonctoires du corps, les autres organes yin aussi en médecine chinoise, notamment par exemple le foie. Et il y a toute une réorganisation du corps qui vient se faire, et l'utérus peut parfois venir vraiment soutenir en venant détoxifier le corps à travers physiquement les menstruations, mais aussi une détoxification, merci Claire, émotionnelle véritablement, qui se fait pendant cette étape-là des menstruations. Donc quand on n'a plus cette étape, le corps est obligé de se réorganiser, de prendre en charge autrement cette charge toxique. Et donc finalement tout ce qui partait par le bas avec les menstruations, toute cette chaleur, toutes ces émotions aussi vont remonter. C'est ça qu'on voit en métaphore qui nous est racontée dans l'Ayurveda, va remonter. Et un peu, on va faire cocotte minute. Et c'est vraiment l'idée de la bouffée de chaleur. On voit que quand on est fatigué, qu'on a un truc qui va vraiment nous agacer, venir nous activer, c'est là que la bouffée de chaleur va sortir, et c'est exactement ce qui n'est pas sorti par en bas qui va sortir par en haut, comme une soupape de cocotte minute. Ensuite, on comprend aussi cette notion de sécheresse, parce que petit à petit, dans ces étapes non ovulatoires, les ovaires donc vont moins produire d'œstrogène, et les œstrogènes, c'est vraiment l'hormone du liquide, du fluide, et donc tout va s'assécher. La peau, les muqueuses, les cheveux. Donc on comprend un peu mieux l'arrivée de ces symptômes de la préménopause et de la ménopause. Et donc, on rentre dans une étape un peu chaotique, où vont s'alterner des cycles très courts avec des règles plus abondantes et peut-être des syndromes prémenstruels. Donc là, on est dans un cycle avec beaucoup d'œstrogènes où finalement on a un follicule qui va quand même maturer, avec des cycles qui sont anovulatoires où on va voir apparaître les symptômes de la ménopause. Donc cette étape-là chaotique, elle peut être vraiment une des étapes difficiles à vivre de la ménopause, surtout les 1 à 2 ans précédant l'arrêt définitif des cycles, surtout que l'irrégularité dans ces cycles va être également en soi un facteur de stress pour les femmes qui ne savent pas trop quand leurs menstruations vont arriver, et souvent elles vont arriver avec quand même plus de volume aussi.
Mais alors, ces différents symptômes, est-ce qu'ils concernent déjà toutes les femmes, et est-ce qu'ils vont durer seulement un temps, ou est-ce que ça va être permanent à partir de ce moment-là?
Ouais, super question Anouchka. Je crois que c'est super important aussi de rappeler que là, je vous fais un tableau un petit peu pessimiste, dans le sens où je vous parle vraiment des symptômes les plus importants. Il y a beaucoup de femmes qui vont avoir une ménopause mais très douce et qui vont pas du tout vivre ces symptômes-là. Alors moi, je remarque dans les personnes que j'accompagne, que c'est quand même des femmes qui ont peut-être une activité physique, qui vont gérer leur stress autrement, voilà. Et puis parfois, bah, il y a pas d'explication. C'est aussi difficile, c'est très complexe. Finalement, on est quand même assez complexe et sophistiqué, donc c'est vraiment multifactoriel tout ça. Donc ça ne concerne vraiment pas toutes les femmes, mais je veux pas minimiser ces symptômes-là parce que je vais dire qu'il y a quand même une grande majorité de femmes, plus de 60%, qui parlent de ces symptômes au moins un moment dans cette période périménopause.
Oui, ce sont aussi des symptômes assez diffus qui peuvent être plus ou moins perçus par les femmes en fonction de leur attention à ce moment-là.
Exactement. Et puis, ça va durer, comme tu le disais, plus ou moins longtemps. Ça peut être quelques mois difficiles. Et pour certaines, ça va vraiment être plusieurs années. Et ça va continuer, pouvoir continuer même après l'arrêt des règles. Voilà. Et justement, dans cette veine-là, je voulais rajouter que on peut aussi le vivre complètement différemment dans ces étapes de préménopause, parce qu'on peut être dans une énergie un peu de nouveau printemps. En fait, dans cette étape où finalement, il y a de moins en moins de progestérone dans le corps, où il y a encore de l'œstrogène, on se retrouve exactement dans la même situation hormonale qu'au tout début de nos menstruations à l'adolescence. Et donc, on peut un peu retrouver cette énergie pour certaines femmes de... parce que l'œstrogène, c'est ça, j'ose tout dans la vie, je suis un peu insouciante, j'ai envie de vivre ce que j'avais pas vécu avant. Donc voilà, il y a vraiment certaines femmes qui le vivent dans ce mode-là. Et c'est vraiment l'énergie de l'œstrogène qui amène ça, cette qualité-là. Ensuite, il y a une troisième phase. Nous entrons dans une phase où les follicules deviennent de plus en plus résistants à l'hormone de maturation. Ils sont de moins en moins en grand nombre et de moins bonne qualité. Donc, les menstruations deviennent de plus en plus espacées et il n'est pas rare de rester plusieurs mois sans menstruer jusqu'à l'arrêt définitif de ces menstruations. Ce n'est pas pour autant l'arrêt des manifestations ni émotionnel ni physique, hein, comme je le disais tout à l'heure. En général, on peut avoir encore 5 à 6 années où bon nombre de femmes témoignent vivre des bouffées de chaleur, de l'insomnie, mais également de l'irritabilité. Et ces symptômes s'apaisent souvent plusieurs années après la ménopause réellement actée. Donc j'observe souvent un changement de rythme qui s'opère pour les femmes à cette étape-là de leur vie, mais parfois un changement aussi forcé, hein, comme on disait tout à l'heure, qui peut arriver avec un burn-out ou une maladie qui s'impose à elles, plutôt que d'avoir finalement pris ce tournant en douceur. Donc c'est là que se joue, je le redis encore, la prévention, car si notre système nerveux est dérégulé et si nous avons du stress chronique, il est important de prendre soin de ce terrain-là, avant la périménopause, pour vivre cette période de manière plus apaisée. Donc ça va passer à travers le mouvement, remettre en mouvement le corps, refaire circuler à la fois les émotions, l'énergie, pouvoir détoxifier, aider le corps à se détoxifier régulièrement et que l'utérus finalement prenne peut-être un peu moins le relais des autres organes émonctoires. Ça va être travaillé sur la gestion du stress et pourquoi pas aller en thérapie aussi pour aborder les traumas qui pourraient encore nous peser. Voilà comment on peut aborder cette prévention. Enfin, on va aborder cette étape de la ménopause aussi comme une grande étape clé qui n'est pas que un changement biologique, c'est aussi une étape de vie profonde, souvent vécue comme une transition intérieure, une période de bilan, de dépouillement et d'intégration. À cette période, il devient naturel de regarder en arrière, de faire le deuil de certains projets, de certains idéaux aussi peut-être, on aurait peut-être aimé que notre vie se soit passée autrement, des étapes qui sont finalement closes. On aurait peut-être aimé être une mère différente, être une conjointe différente avec tel ou tel homme ou femme de nos vies. On aurait peut-être aimé vivre certains rôles différemment. Peut-être certaines choses ne se réaliseront plus, on le sait, et c'est bon aussi de faire ces deuils-là, parce qu'en fait, d'intégrer tout ça, de faire comprendre à notre corps et de laisser notre corps et notre système le comprendre, ça va vraiment faire beaucoup de place dans notre vie à cette étape. Cela ne signifie pas regretter, mais accueillir ce qui a été et ce qui ne sera plus pour avancer plus librement. Donc c'est une étape pour clore des chapitres, intégrer son histoire et pour se sentir plus forte de notre vécu. La ménopause invite à terminer certains processus en cours et certains éclore certains dossiers aussi relationnels, pourquoi pas, des choses qui peuvent rester en latence depuis un certain temps. Il n'est pas rare pour moi de voir certaines clientes finalement vouloir déclarer ça m'est arrivé il y a pas longtemps, finalement un divorce alors qu'elles étaient séparées depuis 10 ans par exemple. C'est le moment de prendre soin du passé, des traumas qui nous impactent encore au présent, pour être plus légère. Donc c'est un dépouillement qui permet d'accéder à plus de clarté, de détachement et de se désidentifier de nos rôles passés. On peut alors se demander qui suis-je en dehors de ces rôles que j'ai joués. Voilà, ce rôle de mère, ce rôle de conjointe, ces rôles au travail aussi. Et dans cette étape, j'ai envie de vous glisser aussi le rituel Rebozo. Ce rituel, c'est un rituel de passage qui traditionnellement est utilisé pour acter, intégrer le passage de la maternité, de la fin de la grossesse vers le début du rôle de mère. Mais de plus en plus, on l'utilise comme rituel de passage dans d'autres moments de la vie. Et personnellement, je l'utilise beaucoup dans ma pratique avec les femmes en ménopause. Et c'est un rituel qui ramène les femmes dans leur corps d'aujourd'hui, qui les ramène aussi dans leur axe et qui aide vraiment à intégrer le passage qu'elles sont en train de faire. Voilà, donc on entre dans cette nouvelle étape de vie. C'est aussi une période de transformation intérieure. On apprend à se connaître différemment à cette étape. On apprend à vivre sans les hormones qui animaient avant notre vie émotionnelle. Avant, on s'appuyait sur l'œstrogène, puis la progestérone. L'œstrogène qui nous aidait à nous lancer dans la vie, à nous ouvrir au projet. Et puis la progestérone qui nous temporisait, qui nous amenait à regarder avec recul les choses sur le plus long terme. Donc maintenant, sans l'animation de ces hormones, on apprend à être plus autonome et finalement peut-être plus proche d'une énergie qui nous serait propre. On entre dans un nouveau rythme aussi, avec de nouvelles envies, de nouvelles manières d'être en relation. Donc c'est toute une redécouverte de soi qui peut prendre du temps et ça vient vraiment nous rappeler que ménopause, c'est vraiment un temps pour faire une pause. Et souvent, beaucoup de femmes ont besoin de prendre ce temps-là avec elles pour se redécouvrir, pour prendre soin d'elles, pour savoir de quoi elles ont envie à cette étape avant aussi de le faire savoir à leur entourage. Parce que ça va aussi beaucoup impacter les relations, y compris les relations intimes, mais aussi les relations plus larges dans la société. On va avoir une nouvelle manière d'être au monde. Voilà, sachant change quand même pas mal de choses en général. Et les femmes finalement qui vont résister à ce changement, qui vont vouloir donner le change, continuer à faire comme avant, moi il me semble qu'elles se battent un peu contre elles-mêmes et qu'elles y passent beaucoup d'énergie et que finalement ça va accentuer leurs symptômes et leurs difficultés à cette étape. Ça c'est vraiment une vision très personnelle bien sûr. Pour moi, au contraire, les femmes qui vont aller dans le sens d'accueillir ce qui est là pour elles vont aller vers plus de clarté. Clarté vers qui elles sont, plus de clarté aussi en regardant derrière, sur plus de clarté sur leur histoire, leur chemin. Et les femmes continuent vraiment à grandir à cette étape. Elles changent de place, mais elles se déploient d'une autre manière. Ça me fait penser à cette femme que j'ai accompagnée qui, après cette étape de la ménopause, dans un des accompagnements qu'on faisait ensemble, s'est vue dans des cercles concentriques. Elle voyait en fait une tribu. Au centre du cercle, il y avait un feu. C'était vraiment le feu actif de la vie. Et elle voyait dans un premier cercle des enfants qui étaient hyper actifs, très joyeux autour de ce feu. Dans un deuxième cercle, autour, il y avait les parents finalement qui étaient vraiment à leurs occupations, qui s'occupaient des enfants, mais qui aussi étaient avec leur travail, étaient dans la phase active de leur vie. Et elle se voyait, elle, changer de cercle et reculer et venir sur le cercle autour, qui est un cercle plus grand. Un cercle qui est plus loin du feu, donc elle me disait qu'elle voyait qu'elle était moins près de cette activité, qu'elle avait besoin de se poser, mais qu'elle voyait aussi avec beaucoup plus de recul ses deux premiers cercles, et qu'elle avait une vision globale et qu'elle pouvait apporter ce côté plus posé, tranquille et cette vision plus globale finalement à l'attribut. Et je trouve que ça résume très très bien ce changement de place qui s'opère à cette étape-là pour, en tout cas, c'est comme ça que le vivent certaines femmes. Voilà, j'espère que ces éléments vont pouvoir vous inspirer, vous aider à traverser cette phase si vous en êtes là, et peut-être à la préparer si c'est quelque chose de plus lointain pour vous. J'ai envie de peut-être vous inviter aussi à une petite introspection. Quelle femme vous aimeriez être à cette étape-là de votre vie? Comment vous avez envie de vous projeter en tant que femme mûre? Qu'est-ce qui serait joyeux, pétillant, vivant pour vous à cette étape? Peut-être que vous avez envie de vous projeter avec des gens qui sont chers à votre cœur. Peut-être que vous avez envie de vous projeter en train de vivre d'une autre manière, ce qui vous a toujours animé, ce qui est précieux. En tout cas, je vous invite à ouvrir une représentation douce, vivante, de cette étape-là de votre vie. Et je vous laisse avec ça. Et peut-être je vous donne une dernière référence. Je trouve qu'il y a un très beau livre de Yaël Catrinet qui peut vous accompagner à préparer ou à traverser cette étape qui s'appelle « Femme sage ». Voilà.
On indiquera cette ressource donc sur le site internet de Radio Royan-Vercors en mettant en ligne cette belle chronique donc sur la ménopause qui a été proposée par Stéphanie. Peut-être une dernière question en terminant. Est-ce que donc dans Osons l'intime, on parle de sujets intimes et de la ménopause, est-ce que c'est justement un sujet qui relève encore beaucoup de l'intimité, qui reste tabou dans l'espace public?
Ouais, un truc de fou. Vous savez que plus de 50% des femmes qui vivent leur ménopause ne le disent pas à leur conjoint.
Mmh. Ah oui, même wow. Dans le cercle intime alors.
Ouais. Bah longue vie à cette chronique.
Voilà, si n'hésitez pas à la réécouter, à la diffuser autour de vous. Donc cette chronique sur la ménopause proposée par Stéphanie, et donc nous étions également en compagnie de Claire. Elles sont membres toutes les deux du collectif Féminin Naissance Royan-Vercors. À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Voilà, et pour de prochains thèmes, n'hésitez pas à poser vos questions par mail donc à Claire et Céline au mail suivant féminin naissance@gmail.com.